Chapitre 3 Comme un papillon. Madame Chapat déployait plus d'ingéniosité à faire de mauvaises affaires que d'autres gens à en faire de bonnes. Elle était trop habile, c'était là le grand mal. Au lieu de vendre avec un bénéfice raisonnable d'honnêtes denrées coloniales, elle baissait les prix et falsifiait adroitement la marchandise pour y retrouver son compte. Un peu de chènevis dans le poivre en grain, pas mal de poussière dans le poivre en poudre, beaucoup d'eau dans le vinaigre, par philanthropie, et d'incroyables mélanges huileux dosés avec mystère dans son arrière-cuisine, et d'effrayants repétrissages de beurre et deux ou trois tours de laine enlevés rapidement à chaque écheveau, de quoi tricoter des bas à boubettes, et le léger coup de pouce donné à la balance, tandis que l'acheteuse a le dos tourné, toutes ces pratiques étaient familières à Madame Chapat. Elle prenait à les cultiver un mal énorme, et vraiment à rester tout bonnement honnête, et lui trouver moins de peine et presque autant de profit. Car la clientèle, mise en défiance par certains indices, finissait par s'insurger. Il s'ensuivait de grandes scènes dont Madame Chapat ne sortait pas toujours victorieuse, malgré sa suavité, ses protestations et le prestige de ses inimitables bandeaux. Deux fois déjà, elle avait dû quitter des localités plus importantes que cette dernière, vendre son fonds au rabais, émigrer parmi d'autres populations candides. Pour réparer ses pertes, Madame Chapat spéculait sur les cafés. Il y avait été dernièrement fort malencheuse. De grosses échéances imminentes la menaçaient. De plus, son coup de pouce commençait à être connu dans le quartier. Les clientes surveillaient d'un œil soupçonneux cette balance si prompte à descendre et pensaient ensuite chez le boucher pour vérifier leur kilo de sucre ou de riz. Et de semaine en semaine, la vente diminuait, l'acheteur se faisait grincheux, les cafés baissaient toujours, les sucres n'augmentaient pas, une complète déveine. Madame Chapat s'en prenait à sa fille, principalement, et à l'Amérique, quand elle était lasse de gronder Boubette. Si ces pays vagues là-bas, où pousse le café, et où les présidents endurent ce que durent les roses, avaient organisé une petite révolution, une petite guerre de rien, l'affaire de se bloquer mutuellement leurs ports pendant quelques mois, les cafés auraient monté. De sa famille, Madame Chapat n'avait rien à attendre. Elle ne pouvait compter, la pauvre femme, que sur les ressources de sa fertile diplomatie. Tout doucement, elle chercha autour d'elle, allumant sa petite lampe brûlante dans l'espoir d'attirer quelques gros nigauds de papillons éblouis. « As-tu répondu à ces petits ingénieurs ?» demanda Mademoiselle Unima le lendemain matin à déjeuner. « Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont petits ?» fut la réponse de son frère. Il bourrait de pain un bol immense de café au lait, comme sa mère, dans son âge tendre, lui avait enseigné à le faire, et comme il avait fait depuis lors tous les matins de sa vie. « Oh !» fit lentement Ultima, qui suivait, savait son frère sur le bout du doigt. « Tu n'as pas écrit, autrement tu ne les regarderais pas. Tu es dans une drôle de phase, Uselim. Pas loin du monde !» fit-il, laissant voir un certain malaise. « C'est toi, gueux étrange, tu supposes des choses. »« As-tu écrit ?»« Non. »« Pourquoi ?»« L'affaire n'est pas sûre, et puis c'est trop loin. »« Mais tu ne saurais t'attendre à faire travailler ton argent sous ses yeux. »« Peut-être, » murmura-t-il d'un air rêveur. Mademoiselle Ulima, par un grand effort, se retint d'ajouter quelque chose, mais elle se promit de surveiller son frère. Il retourna, le soir même, chez Madame Chapat, ayant besoin, dit-il, d'un peloton de ficelle. « Va, mon pauvre frère, pensa Lima, va te faire mettre cette ficelle à la patte. » Monsieur Zélim souriait comme un matin de printemps quand il entra chez sa voisine. Il se sentait jeune. Un petit air de bravade pétillait dans ses yeux. Non qu'il eût la moindre intention matrimoniale, mais un rien de danger dans sa disposition actuelle n'était pas fait pour le faire fuir. Un joli petit groupe de famille, arrangé comme exprès pour toucher les cœurs paisibles, ou comme pour être peint par un peintre bourgeois, s'offrait au regard, dans l'angle reculé, presque un chez-soi, que meublait le petit divan de cuir si neuf, et devant lequel le comptoir massif se dressait comme un rempart de la vie. « Nous nous sommes installés ici ce soir, » dit Madame Chapat, « afin que je n'ai pas à me déranger sans cesse pour répondre à la sonnette. Comme vous voyez, Monsieur Motet, passe de nouveau la soirée avec nous, mais je n'ai pas l'intention de permettre tout l'hiver de pareilles assiduités. Oh, maman, sa chambre est si froide, implora Boubette. Et c'est si joli de vous voir réunis en famille, ajouta Monsieur Zélim. On entrerait dans la boutique tout exprès pour cela. Bon, si le cœur vous en dit, fit aussitôt Madame Chapat avec un engageant sourire. Si le cœur vous en dit, songeait le célibataire. Oh, mais c'est pas trop explicite. Cela se rapporte au groupe de famille. Oh, Nina avait raison. Il eut envie de reculer. Un peloton de ficelle, madame, s'il vous plaît, commanda-t-il froidement. Ficelle rose, monsieur? Rose? Il fronça le sourcil. Quelle allusion y avait-il là-dessous? Non, grise, grise, madame. C'est que j'ai là de la ficelle rose très jolie, pas chère, et comme vous avez à faire beaucoup de petits paquets mignons pour votre clientèle. Monsieur Zélim se dérida. C'était plausible, cela. C'était même une idée ingénieuse. Elle songeait à tort, cette Madame Chapat. Voilà donc votre ficelle rose. Il s'accouda sur le comptoir et regarda dans le coin là-bas les deux petits amoureux, très sages d'ailleurs, très raisonnables, assis à un grand mètre de distance l'un de l'autre. Poubette sur le divan, tricotant un châle de laine, et son aimé sur un tabouret dur, avec de grandes feuilles de papier ministre devant lui, qu'il couvrait d'une écriture fiévreuse. Boubette parlait tout bas, sans le regarder. De temps en temps, elle faisait une pause et se touchait le front de son aiguille. Elle dictait. Tout autour, leur fiction d'or élevait comme un mur enchanté. Le monde extérieur, la boutique et ses tiroirs et la clientèle et les échéances n'existaient plus. « Ils sont touchants, » fit M. Zélim attendri. « Oui, » dit Madame Chapat, « puisse-t-il être plus heureux que je ne l'ai été ?»« Vous n'avez pas été heureuse ?» Faire cette question, c'était s'approcher très près de la flamme, c'était la raser. C'était, pour le gros papillon, offrir déjà à griller le fin bout de ses ailes. « Heureuse, » dit-elle, d'un ton assez acerbe. « Non, ah non, la vie m'en redoit du bonheur. » Monsieur Zélim vit un nuage lui passer devant les yeux. Il se cramponna des deux mains au bord du comptoir. Pourquoi, oh, pourquoi s'était-il aventuré sur ce sol mouvant? Enfin, il réussit à dire d'un air fort peu sympathique. « Oh, je crois que la pas ici-bas, tout le mérite, bonheur qu'il mérite. Mais vous, monsieur Uzelheim, ah, si un brave homme comme vous n'était pas heureux. Oh, j'ai mes peines, madame, j'ai mes peines. Oui, je comprends, fit la dame en baissant la tête, de façon à ce que la lumière de la lampe suspension vint jouer sur les ondes artistiques de ses cheveux. C'est un peu solitaire. Votre sœur est excellente, sans doute, mais c'est pas là le cercle de famille. Ah, nous serons toujours heureux de vous offrir le nôtre. Je vous comprends si bien. » Elle soupira et le pauvre papillon sentit ses ailes grésiller jusqu'à la racine. Il ne lui en restait qu'un petit bout, juste assez, pour un effort désespéré de retraite. « Oui, j'ai eu ces pensées-là autrefois, » articula M. Uzelheim, se trouvant la langue un peu pâteuse. « Mais je ne les ai plus, Madame Chapat, non, pas du tout. Ma sœur me suffit, réellement. » Il devenait rouge puis pâle. Son émotion eût été visible aux yeux les moins pénétrants. Madame Chapat, fine comme l'ambre, en resta d'abord interdite. Puis elle eut une lueur, puis un sourire passablement sarcastique. « Mais au moins, » fit-elle sans trop chercher de transition, « mais au moins votre position est claire, tandis que la mienne. En général, on me croit veuve. »« Mais vous ne l'êtes pas ?» demanda Uzelheim d'une voix brisée. « On dirait que c'est la ruine de toutes vos espérances, » cria-t-elle avec un éclat de rire. « Mais pas du tout, je suis très heureux, au contraire. »« Oh, je vous crois. Non, non, je ne suis pas veuve. Seulement, il ne me convient guère de créer sur les toits que mon mari, après s'être conduit à mon égard en vrai chenapan, est parti pour l'Amérique, d'où il m'écrit de 7 ans 14 jours, toujours pour me demander de l'argent, que je ne lui envoie pas du reste. » M. Uzelheim s'était redressé. Les deux mains posées sur le comptoir, il regardait Mme Chapat d'un air infiniment soulagé et affectueux. Sa confiance dans la candeur féminine revenait par grandes bouffées. Il croyait de nouveau au désintéressement, aux amitiés pures. La porte s'ouvrit, la sonnette tinta, Mlle Ulima parut. Depuis une mortelle demi-heure, elle était en proie à d'extrêmes inquiétudes. Laisser son frère, innocent, débonnaire, résister seul à des artifices fort subtils, était-ce bien là son devoir? Toute seule, se balançant machinalement dans son fauteuil, elle versa quelques pleurs sur l'instabilité des choses. Elle s'était crue établie pour toujours dans cette chambre paisible où tous ses souvenirs avaient trouvé place. Et faudrait-il reprendre la vie errante, exposer le pauvre vieux œuf d'autruche à de nouvelles aventures, voir s'adresser à une autre les prévenances de son frère, elle qui pour un bout de fil à ramasser s'essoufflait si abominablement? Pour rendre justice à Ulima, son chagrin n'était pas du tout égoïste. Elle voyait fort clairement que Madame Chapat n'était pas la femme qu'il fallait à Uzelheim, si hélas, il lui fallait une femme. Cette négociante était trop doucereuse, trop fine mouche. Sa coiffure était trop lustrée, trop ondée, trop alchimique, pour ne pas trahir de perfide dessein. Et ses affaires étaient-elles bien limpides seulement? Mademoiselle Ulima frémit. Au bord de quel abîme son frère se promenait-il inconscient? Bien qu'elle en fût guère coutumière, elle descendit ses étages, ayant pris à peine le temps de jeter un fichu sur sa tête. Tout en marchant, essoufflée par l'émotion et par sa hâte, Elle tâtait son porte-monnaie dans sa poche. Elle cherchait prétexte de quelque emplette. « Comment, c'est toi ?» fit M. Zélim, tournant vers sa sœur un visage si épanoui qu'elle eut cru voir l'aurore du jour des noces. « Oui, c'est moi. J'avais oublié de te dire. » Elle haletait, cherchait des yeux une chaise. M. Chapat fit rapidement le tour du comptoir pour la secourir. « Ah, ma pauvre demoiselle, comme l'as vous tient, c'est la bise, elle souffre très fort ce soir. Asseyez-vous. Vite, Boubette, un verre, un peu d'eau et quelques gouttes d'alcool de menthe. Ou le préférez-vous sur du sucre ?» Mademoiselle Ulimar trouva la force de repousser très vivement le cordial que lui présentait Madame Chapat. « Merci, dit-elle, gonflant les narines avec hauteur. « Je ne prends jamais rien chez les étrangers. »« Oh, Ulimar !» murmura son frère d'un ton plein de reproches. Puis, se rappelant que ses préventions à elle n'avaient pas été encore dissipées, comme les siennes, par la révélation de tout à l'heure, il se pencha à son oreille, tandis que la marchande, très digne et offensée, s'éloignait. « Oulula, tu te trompais joliment, elle n'est pas veuve !» Il découpa ces quatre mots fort nettement, bien qu'à voix basse. « Tu en es sûr ?»« Parfaitement. Son mari est en Amérique, il lui écrit. Il peut reparaître un de ces quatre matins. »« Ça aurait été fort injuste, » ajouta M. Zélim. « Et moi ?» Il rougit. « Très fat par-dessus le marché. Jamais une femme ne m'a fait l'honneur de s'occuper de moi. »« Bah, qu'en sais-tu ?» répliqua sa sœur. Elle acheta un paquet de chicorée, puis se leva et prit le bras de son frère. Elle ne se sentait rassurée qu'à demi. « Viens-tu ? » ?»« Non, eh bien, si cela t'est égal, non pas encore. » « J'ai pas tout à fait fini. » Ce qu'il voulait maintenant, c'est qu'une entière confiance s'était rétablie. C'était sonder délicatement Madame Chapat sur le rendement de son commerce. Cette dame, qu'il avait soupçonnée d'avoir de ténébreux projets, lui apparaissait à cette heure transparente comme un cristal. Les égards que depuis le premier jour de leur connaissance, elle lui témoignait, était manifestement désintéressé, un simple jet du cœur. M. Uzelim s'abandonna à une sécurité délicieuse. Il pouvait enfin, sans arrière-pensée, donner carrière à son obligeance naturelle, à ses sentiments de bon voisin, de vieil ami. Il pouvait admirer les bandeaux de Mme Chapat, comme on admire une œuvre d'art dans une galerie, et s'asseoir non loin de Boubette, causer paternellement avec cette petite fille dont la vivacité l'amusait. « Point à linéa, dit Boubette, la description est finie. Est-ce moi qui vous empêche de poursuivre ? Demanda M. Zélim. « Oh, j'en serais désolé. »« Oh, nullement, non, non, je suis au bout de mon rouleau, voilà tout. » 5 pages de description, le boudoir d'Hermine, oh, je ne sais plus qui mettre. J'ai mis une volière, un aquarium, une boîte à musique en forme de fontaine qui joue des herbes sur le goulot, des chaises en acre, des palmiers artificiels dans le fond avec un hamac suspendu entre deux. Pourquoi artificiel ? Mais je ne sais pas, à cause du climat. Il est vrai que dans un boudoir, la température doit être fort égale. Aimez, raturez artificiel, et mettez naturel, des palmiers naturels. Ah oui, ah, c'est beaucoup mieux. Merci, monsieur Zélim, vous seriez un excellent critique. Oh, mademoiselle Berthe est étonnante dans les descriptions, une abondance de détails. Fit aimer d'un accent admiratif. Le détail, mais qu'est-ce que cela? Monsieur Boutet se charge du plan, des grands traits, des scènes de passion. Oh, il excelle dans les scènes de passion. Aimé sourit, passe à la main dans la boucle de ses cheveux, et comme Boubette, câline, se penchait un peu vers lui, à travers la petite table, il s'aventura à se pencher également. Leurs fronts se rencontrèrent au-dessus du papier ministre, avec un petit choc, et des deux, ce fut Aimé qui rougit le plus. Monsieur Uzélim n'avait rien vu. Il posait des questions à Madame Chapatte, qui allait et venait, mettant tout en ordre, préparant des pesées de sucre, de sourde, pour le lendemain, jour de marché. On achète, on vend, et puis on achète de nouveau. Ces mots trottaient dans l'esprit de M. Uzélim. Il serait bien agréable d'avoir le droit, chaque soir, de s'informer de la vente et de se dire, à chaque acheteuse entrant, à chaque panier sortant, « Oh, voilà mon argent qui roule, mais pas trop loin. Il reste dans le quartier. » Il demanda, sans avoir l'air d'y toucher, quel intérêt un capital pouvait bien produire dans les denrées coloniales. Si Madame Chapatte avait voulu le pousser, il serait allé jusqu'au bout, peut-être, mais elle était devenue bien trop fine pour cela. Elle répondit nonchalamment, et son air de belle indifférence rendit M. Uzélim plus confiant encore. Il voulut savoir si Madame Chapatte n'avait jamais songé à prendre un commanditaire, quelqu'un de discret naturellement, qu'elle ne souhaiterait que d'avoir son argent bien placé. Non, on n'y avait jamais songé. Mais elle a donc tous les fonds nécessaires, se dit M. Uzélim. Et à la pensée qu'elle n'avait pas besoin de son argent, il se sentit d'autant plus désireux de le lui offrir. « Ah, je crois que je vais entamer la scène du cimetière, » disait Aimé, serrant à deux mains son front trop large où bouillonnait l'inspiration. « Je composais toujours des faire-part de deuil. Cela m'a mis en veine. »